إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous en sommes aujourd'hui au verset 282 de sourate Al-Baqarah. Ce verset est le verset le plus long du Coran, car rien que ce verset fait une page en entier. Et ce verset est un verset dans lequel il y a plusieurs règles concernant la dette, concernant le témoignage, concernant le scribe, concernant les tuteurs, concernant les représentants légaux, et beaucoup d'autres points liés à ce type de transaction, concernant le témoignage de l'homme, concernant le témoignage de la femme, etc., etc. Si on voulait expliquer ce verset, en vérité, c'est un chapitre entier. On pourrait même dire qu'il rentre dans plusieurs chapitres des transactions dans les règles de jurisprudence. Donc on va se suffire d'en expliquer les points essentiels pour ne pas que ce soit une explication technique et compliquée pour les auditeurs. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif de cette explication, de ce tafsir, est qu'il reste simple et accessible à tous. En réalité, ces points de jurisprudence doivent être développés dans un cours de fiqh, de jurisprudence, où on explique clairement les règles concernant les dettes, les conditions et les règles concernant les témoins, les conditions et les règles concernant le scribe, etc., etc. Donc on va lire le verset en arabe. D'habitude, on lit complètement la traduction juste après, mais là, comme elle est longue, ce que je ferai, Inch'Allah, c'est que je lirai des petites parties de la traduction en donnant une explication et les règles essentielles que l'on peut en tirer. Wallahu a'lam. Wallahu musta'an. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
Donc ce verset du Coran, qui est le verset 282, puis on a lu aussi le verset 283, car il est lié. Ce verset est le plus long verset du Coran. Il est connu sous le nom du verset de la dette. Le verset de la dette. Car il parle des règles concernant les dettes en islam. Et d'ailleurs, la première règle que l'on peut en tirer, c'est qu'il est permis en islam de contracter une dette et de prêter. Ce qui est interdit, c'est ce dont on a parlé au cours précédent, de faire de l'intérêt usuraire sur la dette. Faire de l'intérêt usuraire sur la dette, c'est-à-dire récupérer plus que ce que l'on a prêté, à condition que ceci soit dans le contrat. Par contre, si une personne, de son plein gré, au moment où il rend la dette, pour remercier la personne qui lui a prêté au moment de sa difficulté, il veut lui rendre plus, alors il n'y a pas de mal en cela. Ceci n'est pas considéré comme du riba, de l'usure. L'usure, c'est que ce soit conditionné dans le contrat. Ou bien, quand la personne a du retard, on lui rajoute de la dette. On lui rajoute des pénalités. Ceci est haram, est un grand péché, comme on l'a expliqué au cours dernier. Mais comme on vient de le dire, si une personne, au moment de la difficulté, m'a prêté une somme d'argent. Et alhamdulillah, quand je suis sorti de cette difficulté et que je lui ai rendu la dette, par reconnaissance envers lui, j'ai envie de lui donner plus que ce qu'il m'a donné ou de lui faire un cadeau. Tant que tout ceci n'est pas conditionné dans le prêt, c'est halal. Ce qui est interdit, c'est de le conditionner dans le prêt. C'est de le conditionner dans le prêt. Et ceci a été bien expliqué par Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, quand il a été questionné sur ce point-là. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, « Ô vous qui avez cru, lorsque vous convenez d'une transaction comportant une dette à terme fixé, mettez-le par écrit. » Premièrement, donc on voit dans cette première partie du verset l'autorisation de ces transactions-là. Deuxièmement, on voit que le terme doit être fixé. On voit que cette transaction à dette, elle doit être à un terme. À un terme autre que le moment où on vend. Car si c'est au moment où on vend, ce n'est pas une dette. C'est-à-dire on donne la marchandise, la personne nous donne le prix de la marchandise. Donc ceci n'est pas une dette, ceci est une vente. Par contre, la dette, c'est que la personne nous prête quelque chose, ou bien nous vend, mais à dette. C'est-à-dire, elle nous vend en considérant qu'on lui donnera le prix de cette marchandise plus tard. Donc, cela reste une dette. Dans ce cas-là, la date, le terme pour rendre la dette doit être fixé. On ne doit pas la laisser comme ça, ouverte, sans date précise. Et là, on parle bien sûr du contrat de vente et d'achat. Et que la personne, elle a une dette, elle doit payer. Elle doit payer. Par contre, quand on prête à quelqu'un pour l'aider, et qu'on n'est pas pressé, on lui dit, quand tu as les capacités, tu me rends. Ceci, il n'y a pas de mal. Là, on parle de la transaction, où la date doit être fixée, c'est la transaction. C'est-à-dire, je vends une marchandise, et la personne me paye à dette. Comme ils font, aujourd'hui, beaucoup de commerçants travaillent comme ça. Les personnes payent sous 90 jours ou sous 45 jours. Donc, la date butoir est fixée. Deuxième chose que l'on peut en tirer, c'est qu'Allah Ta'ala a dit, mettez-le par écrit. Car l'être humain, il est amené à oublier, subhanallah, même si les gens sont sincères, même s'ils sont honnêtes, est-ce qu'ils n'oublient pas? Et s'ils oublient, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont entrer en dispute, en désaccord. Parfois, quelqu'un, il peut s'imaginer. Ils s'imaginent que le prix sur lequel ils se sont mis d'accord, c'est plus ou moins que la réalité. Et après, ça mène à des désaccords, ça mène à des problèmes. Donc Allah Ta'ala a dit, écrivez-le. Et cet ordre d'écrire les dettes est soit obligatoire quand il s'agit de protéger des droits obligatoires, soit parfois fortement recommandé. Et ceci, cela dépend des cas. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens, mettez-le par écrit, un scribe sera requis pour en consigner les conditions. En toute honnêteté, aucun scribe ne devra récuser cette mission. Donc, ici Allah Tabaraka wa Ta'ala demande qu'on fasse appel à un scribe, quelqu'un qui va écrire les conditions de cette dette, et que ce scribe doit être honnête. La condition, c'est qu'il soit honnête, car on n'accepte pas le témoignage, que ce soit même écrit, d'une personne qui est pervers ou d'un mécréant. Il faut qu'il soit honnête. Et aussi, cela montre l'obligation de l'écriture. Et c'est une obligation communautaire d'apprendre l'écriture. Car si Allah a ordonné d'écrire les dettes et les conditions des dettes, donc, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Tout ce dont l'obligation ne peut être atteinte que par un moyen précis, que par cette chose-là, alors cette chose devient obligatoire. Donc, puisqu'Allah a ordonné de noter et d'écrire les dettes, alors écrire est une obligation communautaire. Au minimum, c'est-à-dire une partie de la communauté doit savoir écrire pour pouvoir noter et écrire les dettes, comme Allah l'a ordonné, subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala a cité aussi que ce scribe, il ne doit pas refuser cette mission. Si quelqu'un sait écrire et les musulmans ont besoin de lui pour noter la dette, alors il doit accepter de le faire. Il doit accepter de le faire, il peut prendre un salaire pour cela. Mais il ne demande pas un salaire exorbitant. Il demande ce qui est demandé en général sur le marché. Non. Puis Allah Ta'ala dit, dans le sens de sa parole, aucun scribe ne devra récuser cette mission, qu'il écrive selon ce qu'Allah lui a appris. Donc Allah lui ordonne d'accepter cette mission et d'écrire comme Allah lui a appris. Cet écrit se fera sous la dictée du débiteur qui doit craindre Allah, son Seigneur. On voit ici que celui qui ordonne l'écriture, c'est le débiteur, c'est-à-dire celui qui a pris la dette. Et cette personne doit craindre Allah, ni ne rajouter, ni ne diminuer. C'est-à-dire celui qui prend la dette, il écrit. Il dit au scribe, écris, moi, un tel, fils d'un tel, j'ai emprunté tel jour telle dette, ou alors j'ai pris telle marchandise tel jour, et je m'engage à donner la somme en telle date. Voilà comment cela se passe. Donc c'est le débiteur qui dicte au scribe la dette qui doit être écrite. Cet écrit se fera sous la dictée du débiteur qui doit craindre Allah, son Seigneur. C'est-à-dire il doit craindre, ni rajouter, ni diminuer, et ne point minorer les droits de son créancier. Donc voilà, cette personne, il ne minore pas les droits de son créancier. Il dicte la réalité. Et aussi, ceci est une preuve qu'on a le droit d'utiliser le témoignage d'une personne contre lui-même. C'est-à-dire ce débiteur qui a dicté la dette. Si plus tard il récuse cela, il rejette cela, on lui dit, regarde, c'est toi qui as dicté cette propre dette. C'est ta dictée, c'est toi qui as reconnu cela. Donc, c'est la preuve de l'utilisation du témoignage d'une personne contre lui-même. Puis, Allah Ta'ala dit dans le sens, si le débiteur est légalement incapable, ou il est débile, c'est-à-dire il a une faiblesse de raison, ou dans l'impossibilité de dicter lui-même sa déclaration, son tuteur aura à dicter pour lui en toute équité. Ceci est le cas d'un enfant ou d'une personne folle, d'une personne atteinte de folie, d'une personne possédée qui n'a pas sa raison du tout, qui ne sait pas ce qu'elle dit, d'une personne faible d'esprit. Toutes ces personnes-là, puisqu'elles ne sont pas capables de dicter, qui va dicter à leur place? Leur représentant légal, leur tuteur. Ceci est une preuve qu'il est permis de se faire représenter dans les contrats et qu'il est obligatoire, quand une personne est incapable, qu'elle se fasse représenter. Car la personne incapable, on n'accepte pas sa dictée ou son témoignage. Un enfant, on n'accepte pas son témoignage ou sa dictée. Une personne atteinte par la folie, on n'accepte pas son témoignage ou ce qu'il dicte, etc. Ou quand il est dans l'impossibilité de dicter lui-même. Par exemple, il est absent. Où il a désigné quelqu'un pour le représenter, même s'il est saint d'esprit, il a toute sa raison, il est capable de faire les transactions. Mais il a désigné une personne pour le représenter. Donc ceci montre la légalité de se faire représenter dans les contrats et de nommer un tuteur, ou bien le tuteur légal qui est nommé par la loi, ou bien de nommer quelqu'un pour nous représenter quand la personne a les capacités de nommer lui-même. Son tuteur aura à dicter pour lui en toute équité. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, faites appel dans ce cas à deux témoins parmi les hommes, ou à défaut, un homme et deux femmes dont le témoignage vous paraît acceptable. Donc Allah Ta'ala montre qu'ici, on doit faire témoigner. Et le nombre de témoins, c'est deux. Et ces témoins doivent être des hommes. Et si ce ne sont pas des hommes, alors il faut le témoignage de deux femmes à la place du témoignage d'un homme. Car Allah Ta'ala dit, ainsi, si l'une d'elles oublie, l'autre lui rappellera ce qu'elle aura oublié. L'autre lui rappellera ce qu'elle aura oublié. Ici, cela montre qu'en général, sur les transactions commerciales, les hommes sont plus à même de se rappeler des détails de ces choses-là. Car ce sont les hommes qui fréquentent les lieux des ventes et des achats, et non les femmes en islam. La femme en islam, le lieu de ses devoirs, c'est sa maison. Elle ne se mélange pas aux hommes dans les marchés, sauf si elle va faire ses courses et elle revient. C'est-à-dire, elle n'est pas dans les grandes transactions commerciales, etc., en temps normal. Donc, ceci concerne plus les hommes. Voilà pourquoi aussi, leur témoignage a une valeur plus importante. Cela montre aussi, il y a certains domaines, comme par exemple l'allaitement ou les demandes spécifiques aux femmes, où leur témoignage a une plus grande valeur que le témoignage des hommes. Parce que c'est des domaines spécifiques aux femmes. Par exemple, que l'on témoigne, cet enfant a été allaité tant de fois par telle femme. Est-ce qu'un homme il peut témoigner de cela? Ou en général, c'est les femmes qui connaissent ces domaines-là. C'est les femmes qui connaissent ces domaines-là. Donc dans les domaines, en général, dans tous les domaines, le témoignage d'une femme est à la moitié du témoignage d'un homme, sauf dans certains domaines spécifiques aux femmes, où dans ce cas-là, son témoignage, il a la valeur d'un témoignage complet. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala cite une des raisons pour lesquelles il faut deux femmes pour un homme, car il peut être amené à oublier. Si l'une d'elles oublie, l'autre lui rappellera ce qu'elle aura oublié. Aussi, cela montre que le témoignage d'une personne, elle est acceptée même s'il avait oublié un moment. Par exemple, quelqu'un parmi les témoins a oublié. Puis il vient plus tard et dit, je me rappelle maintenant. Alors on accepte son témoignage. Ce n'est pas parce qu'à un moment il a oublié que son témoignage est rejeté. À condition que c'est quelqu'un d'honnête, de probe. Un musulman pubère et honnête, dont la probité et le sérieux sont reconnus. On n'accepte pas le témoignage d'un pervers, d'un kafir, d'un mécréant, d'un dévoyé. Non. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, les témoins requis ne peuvent se dérober quand ils sont cités. Donc, cela montre l'obligation de répondre au témoignage et de venir témoigner quand on n'a pas une excuse valable pour refuser. Quand on n'a pas une excuse valable pour refuser le témoignage, alors on est obligé de venir témoigner. Ou, par contre, si on ne remplit pas les conditions pour que notre témoignage soit accepté, dans ce cas, on n'est pas obligé de venir témoigner, car de toute façon, le témoignage n'est pas accepté. Quand, par exemple, la personne n'a pas sa raison, la personne est trop petite, la personne est connue pour sa perversité. Il ne va pas venir témoigner, car son témoignage est refusé, à la base. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, « Ne répugnez pas à noter par écrit la transaction, quel que soit le montant de la dette dont le terme est fixé. » Donc, cela montre qu'il, quoi qu'il en soit, faut l'écrire, qu'elle soit petite ou grande, et quel que soit son montant, et quel que soit le terme qui est fixé. Cette procédure est plus juste auprès d'Allah et rend le témoignage plus sûr et le doute improbable. Effectivement, l'écriture des dettes, l'écriture des contrats est un moyen de préserver le droit des gens. Et subhanallah, aujourd'hui, le monde entier fonctionne comme ça. Les contrats sont écrits, sont notifiés, sont assermentés. Et alhamdoulilah, l'islam avait donné l'importance à tous ces aspects-là bien avant que le monde entier connaisse ce type de contrat. Il y a plus de 1400 ans, Allah Ta'ala dans le Coran avait déjà parlé de la manière dont on préservait les droits et dont on notifiait et on assermentait et on garantissait les droits des différentes personnes qui contractent un contrat. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, toutefois, s'il s'agit d'une transaction courante sous forme d'échange entre vous, vous n'êtes pas tenu de l'établir par écrit. Effectivement, si c'est un échange direct, on n'est pas tenu de l'établir par écrit car c'est fait de main à main. Mais toute transaction se fera devant témoin. Ni le scribe, ni le témoin doivent subir de pression. Effectivement, il est interdit de faire des pressions sur les témoins, de leur nuire, ou sur le scribe. Et de même, le scribe et les témoins ne doivent pas nuire aux créanciers ou même aux débiteurs en refusant de venir témoigner ou de faire leur travail. Quiconque oserait le faire commettrait un acte pervers. Ceci montre que le fait de nuire aux témoins ou aux scribes est une perversité, est un péché, est haram, et qu'il est interdit d'exercer des pressions sur eux pour les faire douter ou pour leur faire changer leur version. Mais on doit craindre Allah et préserver les droits de chacun. C'est pour ça Allah tabaraka ta'ala finit dans le sens « Craignez donc Allah, Allah vous instruit, Allah est omniscient. » Donc il rappelle subhanahu wa ta'ala de le craindre et il nous enseigne justement, Allah ta'ala nous instruit et il nous enseigne comment on préserve les droits et il nous rappelle que c'est lui qui est omniscient, qui a la science parfaite, subhanahu wa ta'ala, qui connaît le mieux nos intérêts dans ce monde et dans l'au-delà. Et c'est pour cela qu'il a prescrit de respecter toutes ces règles concernant les dettes. Il y a beaucoup d'autres règles encore dans ces versets, mais comme je vous l'ai dit, l'objectif est d'en tirer une compréhension générale. Je finis avec l'autre verset que l'on a lu, pour rester dans le domaine. Puis dans le verset 283, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, « Si vous êtes en voyage et que vous ne trouvez pas de scribe, le créancier peut exiger un gage qu'il détiendra. » Donc ça, en cas de voyage et qu'il n'y a pas de scribe, alors ici il y a le fait de légiférer, le fait de prendre un gage, quelque chose en gage, un bien. Par exemple, on lui laisse un bien en gage, un bijou, un objet de valeur, une voiture, même aujourd'hui par exemple un chèque en gage. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré cette action. Par exemple, quand quelqu'un doit quelque chose à un autre, il peut lui laisser un gage, lui dire « garde ce gage auprès de toi, et quand je te paye, tu me rends cet objet que je t'ai laissé en gage. » Puis Allah ta'ala dit dans le sens « mais s'il fait confiance au débiteur, celui-ci doit nécessairement s'acquitter de sa dette au terme échu. Qu'il craigne Allah son Seigneur, en aucun cas les témoins ne doivent refuser de déposer. Quiconque refuse de témoigner sera coupable en son âme et conscience. Allah est au courant de tout ce que vous faites. » Donc, ici Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'importance aussi de la confiance et qu'il ne faut pas dissimuler le témoignage et que la personne, une fois qu'il a payé sa dette, alors il est nécessaire au créancier de rendre le gage au débiteur et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rien en garder. De même qu'il ne lui est pas permis d'utiliser ce gage et de l'utiliser d'une manière qui pourrait le faire diminuer en valeur ou l'abîmer, car sinon il en serait responsable, sauf avec l'autorisation de la personne qui a laissé en gage. Si le débiteur lui laisse par exemple une voiture, il lui dit « je t'autorise à l'utiliser », alors il peut l'utiliser, mais il est responsable des dommages qui pourraient arriver à la voiture de sa faute à lui, de sa cause à lui. Puis Allah tabaraka wa ta'ala rappelle que les témoins ne doivent jamais dissimuler leur témoignage, car le droit en islam est bâti sur le témoignage. Il ne peut s'établir sans lui. Le dissimuler est un grand péché, car il lèse le propriétaire d'un droit de son droit. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens « quiconque s'en rend coupable commettra un crime en son âme et conscience, car rien de ce que vous faites n'échappe au Seigneur. » Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala sait parfaitement tout ce que l'on fait et la personne qui cache un témoignage pour nuire et pour que la personne ne puisse pas accéder à son droit fait quelque chose de grave. Voilà ce que l'on peut en tirer en résumé. Et inshallah, si Allah nous permet demain, nous lirons les derniers versets de Sourate al-Baqarah pour finir le tafsir de Sourate al-Baqarah inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.